Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour. Avant toute chose, je voudrais vous dire, avant de commencer ce cours, la tristesse que tous les chercheurs et médecins et chirurgiens qui travaillent dans le domaine de l'angiogénèse ont eu d'apprendre la semaine dernière la mort subite de Judah Folkman. En 2006, j'avais débuté mon cours sur le VEGF en disant à quel point Judah Folkman avait été l'initiateur d'une théorie, disons d'une hypothèse, qui proposait que l'on pourrait traiter les tumeurs par des stratégies qui bloqueraient le développement des vaisseaux. Il a publié en 1971, en effet, un éditorial dans le New England Journal of Medicine qui s'intitulait « Therapeutic Angiogenesis Implications point d'interrogation ». Et on peut vraiment dire qu'en 2005-2006, nous avions déjà à l'époque les premiers documents pour montrer qu'effectivement, cette stratégie anti-angiogénique, et notamment en bloquant soit l'action du VEGF, soit en bloquant le VEGF par des anticorps, on peut dire que cette stratégie a été extrêmement bénéfique, au-delà même d'ailleurs des cancers, puisque l'une des indications importantes des anti-VEGF sont les pathologies oculaires et notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc, la semaine dernière, brutalement, à Denver, entre deux avions, ironie du sort d'ailleurs, Judah Folkman est décédé d'un infarctus massif et n'a pas pu être ressuscité. Donc, voyez, je voulais quand même rendre cet hommage à un pionnier de l'angiogénèse dont nous avons fait finalement à la substance d'à peu près 5 à 6 années de cours. Et aujourd'hui, en continuant sur la péline, un nouveau peptide vasoactif à effet angiogénique, une bonne partie de ce cours sera effectivement dévolue aux propriétés de la péline dans la fonction cardiovasculaire, essentiellement chez l'adulte, mais pas uniquement. Je voudrais simplement rappeler, situer en quelques mots la péline, en vous rappelant donc que le gène de la péline code pour un précurseur qu'on appelle la pré-pro-apéline de 77 aminés, qui est inactif et qui est converti en apéline 36 par une peptidase encore actuellement inconnue, et que cette apéline 36, qui est elle-même active biologiquement, est convertie en différents peptides, l'apéline 17, l'apéline 13, l'apéline 12, en tout cas l'apéline 36, 17 et 13 se trouvent dans les tissus, circulent dans le plasma et sont des peptides dont l'activité biologique varie sans doute en fonction des tests que l'on effectue. Et cette maturation de l'apéline 36 en peptide plus court se fait par l'intermédiaire de proconvertase. Ces peptides actifs agissent sur un récepteur couplé aux protéines G qu'on appelle le récepteur APJ. On l'appelle le récepteur APJ parce qu'en fait, initialement, je vous le rappelle aussi, c'est un récepteur qui était un récepteur orphelin, et la découverte de ce récepteur orphelin qui a précédé la découverte de la péline a permis ultérieurement de situer l'action de la péline et des différents fragments sur donc, ce récepteur. Et puis ensuite, il y a une inactivation des différents peptides de la péline. J'avais insisté aussi sur le fait que c'est une hormone pléiotropique, c'est-à-dire qui exerce de nombreuses actions à différents niveaux. L'apéline et son récepteur se trouvent exprimés dans de très nombreux tissus chez l'adulte. En partant du haut jusqu'en bas, si je puis dire, ce système est exprimé au niveau du système nerveux central et notamment dans la région hypothalamo-hypophysaire. Et je pense que j'aborderai en détail ce sujet la semaine prochaine. Ensuite, l'apéline se trouve située dans tout le système cardiovasculaire, non seulement au niveau des vaisseaux, nous allons le voir, mais aussi au niveau du cœur. Et puis, l'apéline a un rôle dans le métabolisme intermédiaire. L'apéline se trouve exprimée par les adipocytes, par le pancréas Et donc, il y a aussi là un rôle possible de la apéline, et je pense que la semaine prochaine, j'aborderai la question de savoir si la apéline pourrait être considérée comme une adipokine, c'est-à-dire une molécule fabriquée par les adipocytes et pouvant réguler la sécrétion d'insuline notamment. Donc, la semaine dernière, nous avions montré la découverte du récepteur de la apéline, puis la découverte du ligand de ce récepteur, l'apéline. Nous avions vu l'expression tissulaire du système apéline APJ et nous avions abordé la question du rôle de ce système dans le développement vasculaire chez trois espèces, à savoir le poisson zèbre, le xénope, la grenouille, et puis chez la souris, rapidement. Et je voudrais revenir un tout petit peu sur quelques points importants. D'une part, l'apéline se trouve exprimée simultanément à son récepteur dans notamment les vaisseaux et précisément dans les cellules endothéliales, en sachant toutefois qu'il y a des territoires spécifiques d'expression et pour l'un et pour l'autre. Nous avions vu dans ces animaux modèles, que sont le poisson zèbre et la grenouille notamment, que l'apéline se trouvait exprimée au front, en quelque sorte, de l'angiogénèse active dans les cellules endothéliales, ce qu'on appelle les tip cells. Nous avions conclu des expériences d'inactivation du système apéline APJ dans le poisson zèbre et chez la grenouille, que ce système ne jouait vraisemblablement pas de rôle dans la vasculogénèse, l'étape toute primitive de la formation des vaisseaux. Nous avons vu enfin qu'il y avait une action à la fois autocrine et paracrine de l'apéline. Ceci, nous allons le retrouver régulièrement et que cette action semblait indépendante, je dis bien semblait indépendante du VEGF. Nous allons voir si ceci est toujours vrai en fonction d'un article qui vient de paraître ce matin, important, dans l'Embo Journal, que j'ai donc analysé et qui remet en cause un certain nombre de points, mais c'est ça un enseignement du Collège de France, ça enseigne la recherche qui se fait, donc pas obligatoirement la vérité établie. Je dirais même ce n'est pas la vérité établie. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est en fonction de ce que j'ai lu ce matin, mais qui a fait l'objet d'un processus, bien sûr, de revue par les collègues. Et j'avais aussi insisté sur le fait que ce rôle du système apéline pouvait varier suivant les espèces. Il semble que chez le poisson zèbre, par exemple, on observe un rôle particulièrement important pour la formation du tube cardiaque primitif. Donc là, un rôle, je dirais, dans l'élaboration du futur territoire cardiaque. Quand on bloque ce système, on observe des malformations cardiaques importantes, mais il n'y avait pas d'anomalie du développement des vaisseaux primitifs. Chez le xénope, chez la grenouille, l'expression de ce système est aussi très précoce. Il n'y a pas d'anomalie cardiaque que l'on observe quand on bloque ce système. Et en revanche, il existe des anomalies de la formation des vaisseaux intersomitiques. Et puis j'avais dit rapidement, mais je vais y revenir, que chez la souris, il y avait une expression précoce donc dans tout le lit vasculaire et que l'apéline se trouvait avec son récepteur exprimé notamment postnatal immédiat dans un organe qui se développe après la naissance chez la souris et qui est la rétine. Et que j'avais cité simplement mais rapidement sans le détailler l'absence de tout phénotype cardiaque et vasculaire dans les premiers travaux qui avaient été publiés. Et puis, il y avait un point d'interrogation qui existe toujours. Quel est le rôle de l'apéline dans le développement chez l'homme? Nous ne le savons pas et nous ne le savons toujours pas aujourd'hui. Alors, une des questions importantes de savoir, c'est si, oui ou non, ce système apéline-récepteur joue un rôle in vitro et in vivo dans l'angiogénèse. Donc là, nous abordons réellement la partie nouvelle du coup. Alors, comment peut-on repérer in vitro un agent angiogénique? Eh bien, tout au long de ces cours du Collège de France, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser un certain nombre de systèmes cellulaires in vitro, comme par exemple la croissance des cellules endothéliales, la migration des cellules endothéliales, avec des tests qui sont relativement bien standardisés. On peut étudier la perméabilité in vitro des cellules endothéliales, leur jonction, leur adhérence en quelque sorte l'une à l'autre. On peut étudier la formation de tubes de type capillaire, ce ne sont pas des véritables capillaires in vitro, lorsque l'on ensemence en matrigène des cellules endothéliales et voir si elles vont former des pseudotubes en quelque sorte. Et puis, on peut étudier aussi l'action de substances sur les cellules musculaires lisses vasculaires, puisque les cellules musculaires lisses vasculaires jouent un rôle naturellement dans la formation de la paroi vasculaire, dans ce qu'on appelle le remodelage vasculaire. Semi-in vitro, on peut regarder l'effet d'un produit sur le bourgeonnement de capillaires à partir d'explants tissulaires. Lorsque l'on administre un produit actif ou supposé actif comme le VEGF dans du matrigel, on implante en sous-cutané ce produit actif et on regarde au bout de quelques jours la formation de néocapillaires chez la souris ou l'autre animal d'expérience. Et puis on peut étudier in novo, et c'est une technique qui est particulièrement utilisée au laboratoire, à savoir la formation de néovaisseaux à partir d'embryons de poulets en regardant les néovaisseaux de la membrane chorioallantoïdienne qui sont particulièrement faciles à suivre. Et puis naturellement, il faut des expériences in vivo, comme par exemple l'angiogénèse que l'on peut créer de novo dans la cornée avasculaire d'animaux comme le rat, le lapin, la formation de capillaires, je l'ai dit, à partir d'implants contenant le produit, le contrôle de la perméabilité capillaire, ceci en injectant un produit qui normalement ne diffuse pas en extravasculaire, comme par exemple du dextran marqué par un indicateur fluorescent. Et puis naturellement, il y a toutes les techniques d'inactivation qui permettent de savoir si oui ou non le produit ou la molécule ou la substance joue un rôle dans l'angiogénèse. Et puis enfin, on a le modèle de la patte ischémique, c'est-à-dire la ligature de l'iliaque et de la fémorale, et de voir si l'administration du produit ou de la protéine peut restaurer en quelque sorte une circulation ou induire une circulation collatérale. Et enfin, se pose la question pour un produit pro-angiogénique de son rôle éventuel dans la tumorigénèse. Et on a des comparateurs, évidemment, que sont le VEGF, le FGF, le fibroblast growth factor, et donc on peut à ce moment-là étudier l'effet de l'un vis-à-vis de l'autre. Alors dans le cas de la péline, il y a une controverse. C'est pour ça que j'insiste sur tous ces tests. Il y a une controverse, ce n'est pas absolument évident que l'endothéline ait un effet pro-angiogénique. Je vais donc vous montrer des résultats qui sont en faveur, des résultats qui sont plus controversés et qui mettent un peu en doute. En tout cas, on ne peut pas dire que la péline récapitule de façon homogène tous ces critères. Alors voici un premier exemple, un des tout premiers exemples en fait de l'action in vitro de la péline sur des cultures cellulaires. Alors là, il faut bien voir qu'il s'agit de cultures cellulaires particulières. Ce sont des cellules chororétiniennes. C'est une lignée cellulaire en fait, et non pas des cellules en culture primaire. Et on voit très bien qu'il existe une courbe dose-réponse, à savoir une prolifération cellulaire induite par, d'une part, la péline 13 et d'autre part, à moindre niveau, par la péline 36. Non seulement il existe une prolifération de cellules endothéliales, mais en plus, elle est quand même très comparable à celle que l'on obtient avec le VEGF, puisque des doses de 1 picomol dans cette expérience sont grosso modo similaires à des doses de 250 picomol de VEGF, donc un effet puissant. Et puis il existe aussi un effet chémotactique similaire de la péline 13 et de la péline 36. Dans une deuxième série d'expériences, Cox et collaborateurs disent qu'ils ne peuvent pas montrer un effet de prolifération cellulaire de la péline sur les UVEC. Les UVEC, ce sont les cellules endothéliales tirées du cordon ombilical, Human Umbilical Endothelial Vascular Cells. Et donc, ils se sont adressés à des cultures de cellules endothéliales provenant de lignées. Ici, il s'agit des cellules Benn de 3 qui sont en fait des cellules dérivées de la barrière cérébro-méningée. Et là, on observe un effet prolifératif, bien sûr, de ces cellules par le VEGF. Et ici, dans ce système, l'apéline a des doses faibles. Là, encore une fois, est comparable ici au VEGF, est capable d'entraîner une prolifération cellulaire avec une augmentation de l'incorporation d'un agent comme le BRDU. Et puis, cet effet semble indépendant du VEGF dans cette expérience, puisque si l'on utilise un inhibiteur du VEGF, qui est le Sugen 1198, l'apéline conserve toute sa propriété de prolifération des cellules endothéliales, alors que le VEGF voit son action bloquée. De même, si on utilise un bloqueur du FGF, qui est le Sugen 102, eh bien, ce produit-là bloque l'effet prolifératif du FGF. En revanche, il ne bloque pas l'effet prolifératif de l'apéline sur les cellules endothéliales. Autrement dit, un effet prolifératif dans ce type de cellules indépendant du VEGF et du FGF. D'autre part, toujours en utilisant le même type de cellules, l'apéline s'avère être un bon agent chémotactique avec une efficacité comparable, même ordre de grandeur, que le VEGF. Enfin, toujours dans cette expérience, ou dans ce type d'expérience, ces auteurs montrent un effet anti-apoptotique de l'apéline similaire à celui obtenu par le VEGF. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, et ceci rejoint d'autres études, c'est qu'ils ont montré que l'on pouvait induire l'apéline par l'hypoxie. L'hypoxie est en effet, comme vous le savez, un inducteur particulièrement puissant de l'angiogénèse. Au passage, c'est l'inducteur ou un des grands inducteurs du VEGF. Et l'hypoxie chimique induite par le chlorure de cobalt est capable d'élever le taux d'apéline de la même manière qu'il est capable d'élever le taux de VEGF et du transporteur du glucose GLUT1, qui est un transporteur classique impliqué dans la réponse de la cellule aux variations de glucose et à l'action de l'insuline. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe effectivement dans le promoteur du gène de l'apéline un élément de réponse ou des éléments de réponse à l'hypoxie qu'on appelle HRE, Hypoxia Responsive Element. Toutefois, il faut bien voir que, et dans ce que j'ai vu, je n'ai pas vu autre chose que des arguments plutôt théoriques, dans la mesure où il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'études transcriptionnelles in vitro démontrant de façon formelle la fonctionnalité de cet élément de réponse à l'hypoxie, ou plus précisément encore, au Hypoxia Inducible Factor, qui est l'élément de réponse, qui est l'élément transcriptionnel qui va interagir avec le HRE. Autrement dit, c'est un argument indirect pour dire que l'apéline pourrait être induite par l'hypoxie via cette voie Hypoxia Inducible Factor. Alors, je vous ai dit, il y a des résultats qui sont variables suivant la littérature. Voici maintenant un autre travail par Kleins et collaborateurs qui disent qu'ils trouvent, d'une part, le récepteur APJ, le récepteur de l'apéline, sur les cellules UVEC, et il est ici marqué par un colorant vert qui marque l'anticorps anti-APJ, et d'autre part, dans les mêmes cellules, ils trouvent de l'apéline, toujours ici marqué en vert, de la même manière que l'on trouve le facteur von Willebrand, signant bien l'origine endothéliale de ces cellules. Alors, ces auteurs disent que l'apéline sur les UVEC est bel et bien effectivement chémotactique, donc tout le monde est d'accord là-dessus. En revanche, sur les UVEC, ils ne trouvent pas d'effet prolifératif de l'apéline. Mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard encore. Le point intéressant ici, c'est qu'ils trouvent que l'apéline est plus nettement exprimée dans ce qu'on appelle les UVEC, c'est-à-dire réellement les cellules endothéliales vasculaires, mais d'origine veineuse, alors qu'il y a moins d'apéline, 5 fois moins d'apéline dans les HUAEC, qui sont les cellules endothéliales, mais d'origine artérielle. Donc l'apéline, le ligand, se trouverait, ainsi d'ailleurs que le récepteur, concentré préférentiellement dans ces cellules ombilicales d'origine veineuse. Donc pour ces auteurs, pas d'effet prolifératif de l'apéline, alors même qu'on trouve un effet prolifératif du VEGF et du FGF, l'apéline, aucun effet. En revanche, l'apéline sur les UVEC qu'ils ont étudiés, donc ces cellules d'origine veineuse, un effet chémotactique similaire au FGF et similaire, là aussi, au VEGF. Les mêmes auteurs trouvent que dans le modèle d'explant d'aorte, c'est-à-dire qu'on prend un petit bout de l'aorte, on le met dans un milieu nutritionnel, si je puis dire, et puis on regarde l'élaboration de néocapillaires en ajoutant un agent angiogénique comme le VEGF. Si on rajoute de l'apéline à 100 nanomolaires, aucun effet. Et vous allez voir tout à l'heure, dans des expériences faites chez la souris, quelque chose d'assez similaire. On regarde en revanche la quantification de ceci, on observe effectivement donc aucun bourgeonnement par l'apéline, alors même que le VEGF a un effet particulièrement net. Un autre test classique, c'est celui de la formation de pseudo-tubes, comme je l'ai dit en matrigel. Voici une expérience réalisée par l'équipe de Kazai, publiée en 2004, une des premières études d'ailleurs sur le rôle pro-angiogénique de l'apéline. Vous voyez que l'apéline a 1 nanomolaire, l'apéline 13 ou 36 à 1 nanomolaire a un effet particulièrement évident sur la génération de ces fameux tubes pseudo-capillaires, de même que le VEGF, et pratiquement l'action est indistinguable entre ces deux types de molécules. Toujours la même équipe a fait un implant de matrigel contenant de l'apéline 13 ou de l'apéline 36 chez le rat. Et au bout de quelques jours, ils ont repris l'implant, observé le développement de néovaisseaux. On observe des néovaisseaux par rapport au contrôle des implants traités par l'apéline 13 ou 36. De même que le VEGF, bien sûr, est capable d'entraîner un même effet. Et on observe, là encore, un effet similaire dans les deux cas. Et on peut, au passage, quantifier ou essayer de quantifier cela en mesurant le taux d'hémoglobine dans l'implant après donc quelques jours de développement chez le rat. Pardon. Un autre effet angiogénique de l'apéline a été observé chez le poisson zèbre avec un implant, toujours même type de technique, mais là, cette fois-ci, en utilisant un autre animal. L'autre animal, c'est chez la grenouille, chez le xénope. On implante à un stade précoce l'apéline ou du VEGF ou un contrôle, naturellement. Et sans rentrer dans le détail, on peut voir que l'apéline est angiogénique dans ce modèle-là. Les vaisseaux sont marqués par un gène qui s'appelle ERG, qui est proche de ETS et qui est un gène qui est fortement induit au cours de l'angiogénèse précoce. Ici encore, il semble que cet effet pro-angiogénique in vivo de l'apéline ne soit pas médié par le VEGF, car en effet, on ne trouve pas à proximité des billes qui contiennent l'apéline de néovaisseaux qui soient marqués par le VEGF. Alors que lorsqu'on implante le VEGF lui-même, bien sûr, on voit des néovaisseaux marqués par une sonde VEGF. Sur le modèle de la membrane chorioallantoïdienne, l'apéline est clairement pro-angiogénique, aussi bien que le VEGF. Et là encore, une action qui est, importante dans la mesure, nette et puissante, puisque 50 nanogrammes de VEGF sont à peu près équivalents à 10 nanogrammes d'apéline dans ce type de test. Donc pour nous résumer, on peut dire à ce stade que nous avons un certain nombre d'arguments in vitro, in vivo, qui sont en faveur d'un rôle pro-angiogénique de l'apéline, en se rappelant toutefois que en matière de culture cellulaire, les résultats sont variables et plus nettement obtenus avec des lignées cellulaires plutôt qu'avec des cultures de cellules primaires. Et la deuxième chose à se rappeler, c'est que l'apéline a un effet chémotactique, semble-t-il indiscutable, quel que soit le type de cellule endothéliale. Alors, qu'en est-il dans l'angiogenèse tumorale, qui est une autre manière de voir les choses et qui est importante, puisque il faut savoir si, oui ou non, l'apéline pourrait avoir un effet pro-angiogénique dans l'angiogenèse tumorale. Alors là, je vous rapporte une étude qui a été réalisée par Sully, Odigier et collaborateurs, et publiée l'année dernière dans Oncogene. Une étude qui est un peu isolée, c'est-à-dire qu'il sera important de vérifier ce qu'il en est ultérieurement. Ils ont étudié une lignée de carcinome mammaire murin qu'on appelle TSA. L'intérêt de cette lignée, c'est qu'on peut la transplanter chez la souris dans la mesure où cette lignée peut être syngénique avec la souris C57, non, chez la souris balbeucée, pardon. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir recours à des souris immunodéprimées. Ils ont créé des clones de cette lignée cellulaire en transfectant le plasmide codant pour le CDNA de l'apéline. En effet, il n'existe pas dans ces cellules de système apéline. Ils ont observé qu'il n'y a pas d'effet de l'apéline elle-même sur les cellules qui n'ont pas été transfectées, ce qui est logique puisqu'il n'y a pas de récepteur. In vivo, chez la souris balbeucée, ils observent une croissance plus rapide des tumeurs qui ont été transfectées par le plasmide codant pour l'apéline. Ils observent une angiogénèse accrue chez ces souris. Ils observent, ce n'est pas dans le papier, mais dans des résultats qu'ils citent et qui ne sont pas publiés à ma connaissance, des résultats similaires dans un mélanome qu'on appelle le mélanome B16, qui est là aussi un mélanome syngénique chez la souris. Et puis, ils retrouvent ce que je vous ai déjà indiqué, à savoir une induction du messager de l'apéline par l'hypoxie dans les cellules TSA. Et ils proposent que donc, il peut y avoir une création de néo-angiogénèse tumorale par l'apéline, agissant à ce moment-là sur les vaisseaux de l'hôte. Et ils disent enfin que l'apéline, le ligand, est exprimé de façon variable, enfin relativement nette, dans un grand nombre de tumeurs humaines, ce qui pourrait en faire effectivement un agent pro-angiogénique. Maintenant, regardons quand même un petit peu les résultats, parce que c'est un résultat d'importance dans la mesure où on cherche à l'heure actuelle à développer soit des agonistes, soit des antagonistes de l'apéline. Il faut savoir si l'apéline a, oui ou non, un effet tumorigénique net. Eh bien, tout d'abord, il était important d'utiliser donc une lignée de carcinome mammaire qui soit réellement dépourvue du récepteur. C'est le cas. Il n'y a pas de récepteur quand on étudie l'ARN messager codant pour le récepteur. Il n'y a pas de récepteur quand on stimule ces cellules par de l'apéline. Pas de récepteur car pas de signalisation intracellulaire sur le niveau de l'AMP cyclique. Rappelez-vous que l'apéline a un couplage négatif avec l'adénylyl cyclase et pas de phosphorylation non plus de ERK, qui est une autre voie de signalisation du récepteur de l'apéline. Alors voici le résultat principal, à savoir dans différentes souris qui ont reçu le clone de TSA transfecté par l'apéline. Vous voyez ici un ralentissement, un début plus tardif et un relatif ralentissement de la croissance tumorale par rapport aux souris qui ont reçu les clones TSA, mais non transfectés par la pénine. Donc, il y a un retard, en quelque sorte, je dirais, de croissance. Mais une fois que, au bout de quelques 20 jours à peu près, eh bien, les courbes deviennent parallèles, c'est-à-dire qu'il y a un retard initial et puis ensuite un échappement, comme souvent d'ailleurs c'est le cas, et donc un simple ralentissement au départ, puis une croissance tumorale de la tumeur chez les souris. Quand on regarde en matière vasculaire ce qui se passe chez les souris qui ont reçu les cellules TSA transfectées par la pénine, on observe une diminution de la vascularisation tumorale qu'on peut mettre en évidence par immunohistochimie. Et puis, ce que l'on observe aussi, semble-t-il, c'est une présence de vaisseaux de plus grand calibre dans les tumeurs à pénine plus. Il y a moins de vaisseaux, moins de micro-vaisseaux, mais les vaisseaux ont une morphologie changée, à savoir que les vaisseaux seraient en quelque sorte plus larges, plus anormaux chez les souris qui ont reçu le clone TSA à pénine. Ceci est intéressant parce que tout à l'heure, je vous montrerai donc ce travail qui a été publié tout récemment et qui insiste sur le fait que la pénine pourrait jouer un rôle dans le calibre, dans le diamètre vasculaire. Donc à se rappeler. Et puis, comme je l'indiquais, dans cette étude, les auteurs ont montré que l'hypoxie chimique de ces clones cellulaires TSA, quand ils étaient mis en présence d'apéline, eh bien, on observait une augmentation une augmentation de la production d'apéline en hypoxie et que le VEGF A des doses écumulaires induit là aussi une augmentation du taux de mRNA, mais qui est à peu près similaire. Et donc, comme je le disais, il est vraisemblable que l'apéline peut être régulée par l'hypoxie. Il s'agit vraiment d'expériences tout à fait préliminaires et qui nécessiteront d'être confirmées. Un des points intéressants, c'est que dans les myocytes cardiaques, il est cité dans cette étude que les myocytes cardiaques soumis à l'hypoxie peuvent eux aussi avoir une induction du messager de l'apéline. Donc ce serait en quelque sorte une propriété que l'on retrouverait dans les cellules tumorales, TSA, et dans les myocytes cardiaques, et dans les cellules endothéliales enfin. Et puis pour terminer ce point, on observe une expression de l'apéline dans différentes tumeurs humaines. Ce qui a été étudié là, c'est le niveau d'expression de l'apéline dans des paires de tissus, tissus sains, tissus pathologiques chez des cancéreux. Donc on peut étudier l'expression différentielle du gène de l'apéline, qu'il s'agisse de cancer du sein, de l'ovaire, de l'estomac, etc. C'est un assez gros travail puisqu'il y a eu 154 paires de tissus sains et pathologiques. Il s'agit d'un travail de débrouillage, je dirais, dans la mesure où ces techniques de criblage doivent être ensuite affinées par des mesures quantitatives. Là, ce n'est pas réellement très quantitatif. Néanmoins, on observe que dans un certain nombre de tumeurs, si on se donne une marge de sécurité pour estimer qu'il faut au moins une fois et demie de plus d'apéline, du messager de l'apéline dans la tumeur par rapport au tissu sain ou dit sain adjacent, vous voyez qu'il y a un grand nombre de tumeurs qui semblent exprimer de façon claire et nette à l'apéline. Au niveau de la peau, du pancréas notamment, au niveau de la prostate, etc. Donc un certain nombre d'arguments finalement qui vont dans le même sens. Et pour résumer ce que je viens de vous dire, on peut dire que l'apéline est exprimée, vous le savez, très précocement lors de l'angiogénèse embryonnaire, mais aussi dans l'angiogénèse postnatale au niveau des vaisseaux rétiniens, que l'apéline a une action proliférative sur les lignées de cellules endothéliales, au moins, qu'elle a une action chémotactique sur ces mêmes cellules, capable de former des structures tubulaires en matrice gel, d'avoir un effet in ovo sur la CAM, et qu'elle pourrait être impliquée dans l'activation de l'angiogénèse tumorale en agissant sur les vaisseaux de l'hôte. Il y a toutefois des mais. D'une part, des mets concernant l'action variable sur la prolifération des cellules endothéliales. Et puis tout de même, ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas d'anomalie patente de l'inactivation du gène de la apelin dans différents modèles, souris, poissons, zèbres, et même grenouilles, il n'y a finalement qu'un article sur les vaisseaux intersomitiques. Donc on peut dire que ceci nous manque pour être certain que, en tout cas au cours de l'embryogenèse, la apelin pourrait jouer un rôle important. Alors, on peut se poser la question, c'est exactement comme ça qu'on, je crois qu'il fallait, il faut réfléchir à l'heure actuelle, un effet pro-angiogénique modeste. On ne peut pas exclure que sur un certain type de vaisseau, la apelin pourrait jouer un rôle dans l'angiogénèse. Et après tout, il y a la veine, il y a l'artère, il y a les lymphatiques, nous ne savons pas très bien, même si la apelin est notablement exprimée dans les veines. Dans un territoire ciblé, ce n'est pas exclu non plus que l'apelin soit plus importante au niveau de la rétine que dans un autre territoire. Peut-être qu'en certaines situations physiopathologiques, l'apelin pourrait jouer un rôle important, nous ne le savons pas. Il y a un point qui est intéressant, qui est l'angiogénèse cardiaque, d'une part au cours du développement, et puis en situation physiopathologique. Car je vous montrerai tout à l'heure que l'inactivation du gène de l'apelin à un stade tardif du développement chez la souris a un effet. Et au fond, on ne connaît pas bien le mécanisme de l'effet, ce n'est pas très discuté. Moi, je me demande si, après tout, il ne pourrait pas y avoir un rôle dans la formation de microcapillaires, de la vascularisation collatérale du cœur, qui, quand on devient un peu âgé, est importante pour préserver la fonction contractile du myocarde. Alors, voilà le travail que j'aimerais vous rapporter et qui donc vient d'être publié par une équipe japonaise de Kidoya dans Humboldt Journal, qui est un très bon journal. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter sur les expériences rapportées. Ils s'intéressent, et c'est comme ça qu'ils présentent en tout cas à leur découverte, ils s'intéressent au phénomène de maturation, d'élargissement des vaisseaux durant l'angiogénèse. En effet, ce n'est pas le tout de faire progresser les vaisseaux, il faut que les vaisseaux gardent un calibre satisfaisant, il faut que les vaisseaux, lorsqu'ils vont être formés, aient une perméabilité qui soit bien contrôlée, qu'ils puissent avoir la possibilité de se dilater en fonction du flux qui va être d'ailleurs par lui-même un facteur qui va conditionner le calibre des vaisseaux, et il faut enfin que ces vaisseaux soient, je dirais, imperméables à des grosses molécules qui ne doivent pas diffuser en dehors de la lumière vasculaire. Donc c'est tout ce qu'on appelle le problème du remodelage vasculaire, qui implique des molécules déjà identifiées depuis un bon bout de temps, et notamment un système que j'avais rapporté ici au collège il y a plusieurs années, qu'on appelle le système angiopoïétine 1, avec son récepteur TIE2, qui est un récepteur à tyrosine kinase, récepteur de croissance, qui intervient essentiellement dans la structuration, dans le remodelage vasculaire. Alors, il s'intéresse aux molécules qui pourraient être impliquées donc dans ces phénomènes de remodelage vasculaire. Et ils ont fait une expérience qui est intéressante et qui semble simple au départ, fallait-il la faire. Ils ont en effet incubé de l'angiopoïétine 1 avec des cellules UVEC dont je viens de vous rappeler l'existence, et ils montrent que l'angiopoïétine 1 dans ces cellules UVEC sont capables, l'angiopoïétine 1 pardon, est capable d'induire l'expression d'apelin, tant l'ARN messager que la protéine. Comment l'ont-ils découvert? Pas du tout avec une idée a priori. Ce qu'ils ont fait, c'est les techniques classiques de criblage à haut débit, ou par les techniques en quelque sorte de, d'hybridation différentielle, on peut repérer les gènes principaux qui sont exprimés quand on rajoute un ligand comme l'angiopoïétine. Et une deuxième série d'expériences sur lesquelles ils insistent, pour lesquelles c'est plus critiquable, c'est qu'ils disent que l'apéline est surexprimée dans un modèle de souris où on va forcer en quelque sorte l'expression de l'angiopoïétine 1 dans un territoire bien particulier qui est le derme. La peau est très vascularisée. Et la vascularisation de la peau dépend, le remodelage vasculaire dépend entre autres de l'angiopoïétine 1. Alors, lorsque l'on fait des souris transgéniques avec un promoteur de la kératine, qui va donc se mettre dans le derme, qui va en quelque sorte conduire l'expression de l'angiopoïétine 1, c'est ce qu'on appelle les souris transgéniques K14 angiopoïétine 1, je suis désolé pour tout cela, mais ça veut simplement dire qu'on va forcer l'expression de capillaires dans le derme, eh bien, on observe une forte expression de l'apéline dans ces capillaires. L'apéline elle-même entraîne une prolifération des uvèques, mais en présence de VEGF. Au passage, c'est un point important. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que les uvèques répondaient ou ne répondaient pas, suivant les auteurs, à l'administration d'apéline. Mais en fait, c'est sans doute qu'il faut du VEGF, du moins en quantité suffisante. Et d'autre part, ils ont montré que l'apéline entraîne une prolifération des cellules endothéliales dans un autre modèle, qui est un modèle d'explant, un explant d'organes qu'on appelle, qui est particulièrement riche en précurseurs de cellules endothéliales, l'angioblaste, qu'on appelle la région aortogonado-mésonéphrose, l'AGM. Et à 11 jours et demi, on peut mettre en culture cette région et observer la vasculogénèse puis l'angiogénèse in vitro, en quelque sorte, à un des stades très précoces. Toujours ces auteurs suggèrent que, sur des arguments qu'on va discuter, que l'apéline régule l'assemblage, en quelque sorte, des cellules endothéliales, qu'elle permet, au fond, la connexion des cellules les unes aux autres et l'adhérence de ces cellules à la membrane basale des cellules qui vont constituer la paroi vasculaire. Et donc, l'apéline jouerait un rôle dans cette jonction intercellulaire, notamment par l'expression de protéines d'assemblage qui vont assurer cette jonction, et notamment la claudine 5 et à moindre degré la VE-cadérine. Il montre l'expression précoce de l'apéline dans les cellules endothéliales au cours de l'angiogénèse, ça nous le savions, dans les vaisseaux en cours de formation, ça, ce n'est pas nouveau. Mais alors, avec des techniques, je dirais, à la japonaise, sans faire du tout de péjorative, mais des techniques microscopiques, de mesures extrêmement précises du diamètre des capillaires, vous pouvez imaginer un petit peu la difficulté que ça représente, il conclut qu'il y a un amincissement du calibre des vaisseaux sanguins chez la souris qui n'a pas de gène de l'apéline, l'apéline moins, autrement dit, des mesures microscopiques pour pouvoir dire, je vous montrerai quelques images parce que ça doit se voir, enfin, on voit les images qui nous montrent, qui sont numérisées, bien entendu, mais enfin, on voit la difficulté de ce type d'expérience. Et il conclut donc qu'il y a une réduction du calibre lorsque l'apéline est absente. Et donc, il conclut, et ça c'est original, que le système apéline est impliqué finalement pas tant dans le développement traditionnel, la formation des vaisseaux tels que nous l'entendons, mais dans la régulation du calibre vasculaire. Il n'y a pas beaucoup de molécules pour lesquelles c'est connu. L'angiopoïétine avec son récepteur, je l'indiquais, et là on aurait une nouvelle molécule intéressante. Il y a des facteurs physiques qui sont impliqués, et notamment ici, au Collège de France, le groupe de Hahnemann, avec Ferdinand Lenoble notamment, avait montré l'importance du flux dans le développement des vaisseaux et dans le calibrage, en quelque sorte, de vaisseaux. Alors, ceci est important puisque les vaisseaux, le calibre des vaisseaux est essentiel pour déterminer l'apport d'oxygène et de nutriments. Alors, il est clair qu'effectivement, en culture cellulaire, en l'absence de VEGF, l'apéline de 10 à 1000 nanogrammes par millilitre n'a aucun effet sur la prolifération des cellules endothéliales, des uvèques. En revanche, en ajoutant du VEGF, eh bien, à 20 nanogrammes par ml, il y a en quelque sorte une potentialisation ou l'expression, en tout cas, d'un pouvoir mitogénique de l'apéline. L'apéline, au fond, a un effet qui pourrait être lié à la stimulation par le VEGF du récepteur APJ. Il est possible qu'effectivement, il y ait peu de récepteurs APJ dans les EUVEC, pas inexistants, mais peu, et que du fait de la stimulation par l'APJ, en fait, comme le suggère ce travail, il y a une augmentation de l'ARN messager qui code pour le récepteur, et du coup, l'effet de la pénine sur la prolifération cellulaire. Et ce récepteur, on peut le suivre à la fois par l'ARN messager quantifié et d'autre part par l'apparition de la protéine, puisqu'on peut marquer la protéine par un anticorps fluorescent dans les cellules UVEC en présence de VEGF. Alors voici les anomalies de calibre des vaisseaux chez les souris dépourvues du gène de la pénine. Ici, à 9 jours et demi, on observe le développement des vaisseaux intersomatiques chez les animaux contrôles. Les vaisseaux vont être marqués par le CD31, marqueur classique des vaisseaux. Chez les souris KO pour la pénine, au même stade, on observe toujours la formation des vaisseaux intersomatiques, mais le calibre de ces vaisseaux chez les souris qui n'ont pas d'apénine est inférieur au calibre des vaisseaux qui ont de l'apénine. Et c'est ce qui est marqué dans cette quantification, une réduction de 2 fois, grosso modo, du calibre. Alors, une autre expérience qui est intéressante parce qu'elle va nous réconcilier avec l'expérience d'explant aortique que je vous ai indiqué tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'explant aortique, une des équipes ne trouvait pas de bourgeonnement capillaire à partir de l'explant aortique quand ils administraient la pénine. C'est exactement ce que trouve la même équipe japonaise. En présence d'apénine, l'explant aortique est incapable de fabriquer des vaisseaux. En revanche, il en fabrique comme attendu avec du VEGF et quand on met l'apénine et le VEGF. Et à ce moment-là, on voit des vaisseaux. Et alors là aussi, vous voyez ici la possibilité de calculer le diamètre des vaisseaux représente à peu près le double de diamètre quand on rajoute apénine et VEGF par rapport au VEGF seul. Autrement dit, l'apénine dans ce type d'expérience est capable à la fois d'entraîner un bourgeonnement de néovaisseaux, mais des néovaisseaux qui sont de diamètre supérieur aux vaisseaux des aortes non traitées par l'apénine. Alors, j'ai appris que les vaisseaux de la trachée continuent à se développer chez l'adulte, chez la souris adulte en tout cas. Donc il y a une angiogénèse active, c'est intéressant, dans la trachée. Et ici, par une coloration à base de lectine fluorescente, on peut regarder l'arbre vasculaire, les micro-vaisseaux de la trachée chez la souris à 8 semaines d'âge. Donc là, il s'agit de souris adulte. On est dans une angiogénèse chez l'adulte que j'ignorais jusqu'à présent, je veux dire. Et là, il semble bien y avoir moins de vaisseaux. De façon quantifiée, on trouve 2 fois moins de vaisseaux dans la trachée de la souris KO pour la pénine que par rapport à la souris sauvage. Et d'autre part, quand on estime le diamètre ces micro-vaisseaux de la trachée, il y a une réduction. Alors attention, on part d'une réduction de 18 à 14, donc avec la difficulté évidemment d'avoir un comparateur similaire, etc. Donc là, il faut suivre nos amis japonais dans leur démonstration. Mais ils ont encore un autre argument pour essayer de nous convaincre, encore que l'argument soit un peu forcé, si je puis dire. C'est justement en forçant l'expression d'un réseau capillaire chez la souris transgénique, donc chez la souris transgénique avec l'angiopoïétine 1, on observe par rapport à la souris sauvage, chez la souris transgénique angiopoïétine 1, un développement, je dirais presque monstrueux de vaisseaux dermiques. Mais en revanche, chez la souris apénine KO, pratiquement pas de différence avec la souris sauvage, mais chez la souris doublement transgénique, d'une part KO et d'autre part croisée avec les souris angiopoïétine transgénique, eh bien, le développement des capillaires qui était très marqué chez la souris angiopoïétine 1 se trouve très réduit chez la souris KO. Donc vous voyez que là aussi, on aurait une réduction notable du calibre des vaisseaux, mais des vaisseaux d'un certain calibre même, c'est-à-dire les vaisseaux relativement de calibre relativement important dans ce modèle-là. Donc là encore, un effet, mais qui n'est pas, je dirais, absolument spectaculaire, mais en tout cas bien documenté. Alors voilà ce que proposent ces auteurs pour simplifier avec un schéma rapidement fait. La cellule endothéliale est une cible du VEGF. Nous le savons bien, le VEGF peut être mis en jeu lors de l'embryogenèse par l'hypoxie, les cytokines, etc. Et le VEGF peut agir sur la cellule endothéliale pour promouvoir l'expression du récepteur APJ. Le dit récepteur APJ, à ce moment-là, est présent pour pouvoir être actif dans les phénomènes de signalisation cellulaire. L'angiopoïétine peut agir elle aussi sur la cellule endothéliale et induire l'expression de la apénine par l'intermédiaire de ce fameux récepteur TI2 qui est présent dans les UVEC et dans toutes les cellules endothéliales. Et donc, de cette façon-là, il pourrait y avoir une prolifération des cellules endothéliales en présence de VEGF, une adhésion, un contact intercellulaire facilité et en quelque sorte une augmentation du calibre vasculaire pouvant ainsi adapter en quelque sorte le vaisseau aux demandes tissulaires. Il y a des tas de points d'interrogation que soulève cet article que je trouve intéressant et qui sont des points d'interrogation qui résument en quelque sorte cette première partie du cours. D'abord, ceci est-il limité au stade précoce de l'angiogénèse embryonnaire? C'est important de regarder attentivement un article. Et il y a une petite phrase dans l'article, dans la discussion, qui m'a troublé. Ils disent en effet que ce qu'ils ont observé, ce que je vous ai montré, cette réduction du calibre des vaisseaux s'observe au tout début de l'angiogénèse, mais que plus tard, de l'angiogénèse embryonnaire, mais que plus tard, au cours du développement, on ne retrouve plus cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se placer à un moment donné, à un moment précis, pour pouvoir observer ce que je viens de vous montrer. Qu'est-ce qui se passe au jour 15, 16, 17, 18, et la souris naît à 18, 19, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Ils disent qu'il est possible qu'il y ait un système de compensation qui intervient et que finalement, ce que je vous ai montré là n'est peut-être pas vrai plus tardivement. Alors, c'est quand même troublant. Quel est le rôle de toute cette affaire-là dans la néo-angiogénèse chez l'adulte? Moi, je trouve cela très important parce qu'on va voir dans cette deuxième partie de cours l'importance de la apénine sur la fonction cardiaque. Tout mon cours sera là-dessus. Parce que s'il y a quelque chose qui est bien démontré, au moins sur le plan pharmacologique, c'est que la apénine est un sacré inotrope positif. Et il y a beaucoup de travaux là-dessus. Est-ce que ceci est lié ou non à entre autres, une bonne vascularisation capillaire myocardique? C'est un vrai point d'interrogation dans la mesure où les souris dépourvues d'apéline tardivement développent une insuffisance cardiaque. Est-ce que ceci a un rapport avec la néo-angiogénèse tumorale et un retentissement, je viens de le dire, sur la fonction cardiovasculaire? Donc voilà où nous en sommes. Il est donc urgent de regarder un petit peu ce qui a été fait en termes d'inactivation du récepteur de l'apéline, je dirais de façon globale, chez la souris. Alors, les premiers auteurs qui ont étudié l'inactivation du récepteur, en regardant tout ce qu'on pouvait regarder à l'époque chez la souris, en 2004, c'est l'équipe de Ishada et leurs collaborateurs. Ils ont remplacé la région codante du gène de l'apéline par un gène reporter LACZ, qui permet de suivre ainsi, au passage, le développement du récepteur APJ. Attention, ce n'est pas l'apéline, du récepteur de l'apéline APJ chez l'embryon. Ils ont observé un développement normal de ces embryons. Alors, naturellement, dans un cas comme celui-ci, ils ont regardé les embryons, j'imagine, à différents stades, mais ce n'est pas précisé, ou en tout cas, chez les fœtus à la naissance. Ils n'ont pas observé d'anomalie macroscopique des organes, alors même que l'apénine est exprimée partout. La pression basale de ces animaux est normale. Il rapporte, et c'est important, un effet hypotenseur de la apelline in vivo, qui est médié par la NO-synthase, et j'en dirai un mot. Ils disent qu'il y a une augmentation de la réponse vasopressive à l'angiotensine 2 chez les animaux knock-out pour le récepteur de l'apelline. Et ils proposent comme hypothèse, et je pense que j'y reviendrai ultérieurement, que le système apelinergique pourrait jouer en quelque sorte un rôle de régulation négative ou de contre-régulation vis-à-vis de l'angiotensine 2. Alors, ça, on peut dire aussi qu'ils ont regardé, sans encore une fois le détailler, le comportement alimentaire des animaux qui n'ont plus de récepteurs de l'apelline. Ils ont regardé s'il y avait une obésité induite par la diète hypercalorique. Ce n'est pas le cas. Et à 3 et 6 mois, ils n'ont pas observé d'anomalie sur le développement cardiaque. La pression artérielle basale de ces animaux sauvages et normaux est absolument similaire, et la fréquence cardiaque est de même similaire chez les animaux sauvages et chez les animaux KO pour le récepteur de l'apelline. Alors, ils ont trouvé, et ceci avait déjà été noté au passage, qu'il existe un effet hypotenseur de l'apelline chez les animaux sauvages, un effet hypotenseur modeste, rapide et fugace, de l'ordre de, ici, moins 10 mm de mercure. Alors, le point intéressant, c'est qu'ils ont répété l'expérience chez les animaux qui sont dépourvus du récepteur de l'apelline. Et lorsque les animaux n'ont plus de récepteur de l'apelline, alors même que leur pression artérielle de base est donc indistinguable de celle des animaux sauvages, eh bien, l'administration d'apelline n'entraîne aucun effet hypotenseur. Alors, ceci est important parce qu'on pourrait penser qu'il y a une redondance des récepteurs de l'apelline. Tel ne semble pas être le cas, puisque dans ce cas-là, on aurait encore un effet hypotenseur. Or, je vous ai dit que dans d'autres espèces, comme le poisson zèbre et comme le xénope, eh bien, il y avait une redondance des récepteurs de l'apelline. Il y a au moins deux récepteurs. Chez le rat spontanément hypertendu, au passage, et chez le rat normal, entre parenthèses, ce n'est pas tout à fait un rat normal que le rat Wister Kyoto, ce n'est pas exactement les mêmes types de souches. En tout cas, toujours est-il qu'on observe que l'apelline abaisse la pression artérielle des deux souches, souche normale et souche spontanément hypertendue, mais l'effet hypotenseur chez le rat spontanément hypertendu est moindre que chez le rat Wister Kyoto contrôle. Ce qui pose d'ailleurs un problème intéressant. Peut-être qu'il y a un métabolisme qui est différent entre ces deux types d'animaux pour l'apelline elle-même. Peut-être qu'il y a aussi une modification du taux du récepteur dans une espèce, comme par exemple une baisse du taux du récepteur chez le rat spontanément hypertendu par rapport au rat Wister Kyoto. C'est en tout cas ce qui a été trouvé dans un autre organe qui est le cœur par l'équipe de Zoccodi. Et puis, peut-être pour terminer cette première heure de cours, simplement pour dire que cet effet hypotenseur de l'apelline chez l'animal normal est bloqué par la préadministration d'un bloqueur de la NO-synthase, la LNAM. À ce moment-là, il n'y a plus d'effet hypotenseur quand on traite les animaux par la LNAM chez les animaux sauvages. Et enfin, un argument, je dirais, mais modeste, pour penser que cet effet de l'apelline pourrait être un effet qui s'opposerait à l'effet presseur de l'angiotensine 2. Alors, sans rentrer dans le grand détail, je dirais simplement qu'une des expériences qu'ils ont réalisées a été d'étudier la pression artérielle mesurée par sphygmomanométrie, c'est-à-dire une mesure de pression qui est discutable. Il faut voir comment une souris se débat. Ce n'est pas aussi simple que cela. Et donc, il y a d'autres techniques qui sont utilisées depuis. C'est quand même un travail qui date déjà de 4 ans. Mais enfin, ils ont étudié la pression artérielle de base. Puis, ils ont regardé la pression artérielle de base des animaux qui n'ont plus de récepteurs de l'angiotensine. à ce moment-là, il y a une chute absolument nette, classique, de l'ordre de 35 mm de mercure. Le système rénine-angiotensine a un rôle tonique sur la pression artérielle basale. Et là, ils ont croisé les animaux qui n'ont plus de récepteur de l'angiotensine avec des animaux qui n'ont plus le récepteur de l'apéline. Et à ce moment-là, il y a une petite augmentation de la pression artérielle basale, ce qui impliquerait peut-être que ces animaux, là, ont perdu en quelque sorte l'effet bénéfique de l'apéline pour s'opposer en quelque sorte à l'effet de l'angiotensine. Donc il y aura un effet d'inhibition de l'action vasopressive de l'angiotensine qui est suggéré par ces auteurs. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu et puis je reprendrai sur apéline et système cardiovasculaire chez l'adulte dans quelques minutes.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.